Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le 12e dimanche après la Pentecôte. Et la Sainte Église nous demande de méditer sur une des plus belles paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ a données à ses disciples et à ses apôtres. C'est peut-être la parabole la plus connue de l'Évangile, la parabole du bon Samaritain. Je vous la relis. Donc on la trouve en Saint-Luc, au chapitre 10. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains de voleurs qui le dépouillèrent et après l'avoir couvert de blessures, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Or, il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin, il vit cet homme et passa outre. Un lévite qui se trouvait près de là, l'ayant vu, passa de même. Mais un Samaritain qui était en voyage vint à passer près de lui et le voyant, il fut touché de compassion. S'étant approché, il versa de l'huile et du vin dans ses plaies et les banda. Puis, le plaçant sur sa monture, il le mena dans une hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Aie soin de lui et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Il importe, mes bien chers frères, devant un texte de ce genre, de faire très attention, d'éviter l'interprétation personnelle d'un texte de l'Évangile. Il n'y a pas de libre examen dans l'Église catholique, ça n'existe pas. Laissez ça aux protestants. Les protestants pensent que chaque personne peut interpréter à sa guise, comme il le désire et selon son cœur, ou les sentiments du moment, un texte de l'Évangile. Non. Dans l'Église catholique, on n'agit pas ainsi. Comment est-ce que l'Église a-t-elle interprété ce texte? Il est absolument fondamental de lutter justement contre cette tentation qu'on trouve non seulement chez les protestants, mais aussi chez les modernistes, d'avoir l'interprétation personnelle du texte. Comment les pères de l'Église ont-ils interprété ce texte? Puisque, encore une fois, ce sont eux qui ont l'interprétation officielle, la clé de l'interprétation officielle. Donc, pour interpréter un texte de l'Écriture sainte, première vertu, c'est la foi, et immédiatement après, avec la foi, l'humilité. La foi pour croire et l'humilité pour accepter de se soumettre à l'interprétation de l'Église catholique. Sinon, on va interpréter de travers. Voyez ? Donc, ce texte de Saint-Luc nous parle de la vertu de charité, c'est évident. Mais il nous parle de la vertu surnaturel de charité. Un des premiers points importants à comprendre, c'est que les gens modernes mélangent tout et transforment la charité surnaturelle en charité naturelle. Et on le voit très bien dans les textes publiés par Bergoglio et les textes des missionnaires modernes. Ils ne se préoccupent plus des âmes. Lorsqu'un missionnaire, il y a encore 50 ans ou un siècle, il partait dans un pays impossible, il partait pour prêcher l'Évangile. Il partait au Dahomey ou au Tonkin ou un pays complètement loin de tout, où il allait devoir se bagarrer contre des milliards et des milliards de moustiques au mètre carré et manger une nourriture impossible et avec des climats impossibles. Pourquoi il y allait? Pour sauver les âmes. Il partait pour sauver les âmes. Dans le monde moderne, les modernistes ne partent plus quand ils partent pour sauver les âmes. Ils partent pour aider les corps. Alors on va partir pour construire une école, on va partir pour creuser un puits, on va partir pour apprendre aux gens à cultiver correctement la pois chiche ou la cacahuète, je ne sais pas. Mais on ne pense plus aux âmes. Le plus important, c'est l'âme. C'est par l'âme qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas par le corps. Et donc, le missionnaire va partir dans un pays impossible pour amener les âmes vers le bon Dieu. Car toutes les âmes sont créées justement à l'image de Dieu et qu'il faut en plus amener ces âmes à la foi catholique, à la grâce sanctifiante, pour qu'elles soient non seulement créées à l'image de Dieu, mais aussi à se ressembler. J'ai déjà expliqué ces choses-là bien souvent. Alors, voyons un petit peu ce texte. Alors, comment un moderniste va-t-il interpréter ce texte? Voilà ce que va vous dire le moderniste, plus ou moins. Eh bien voilà, donc il faut aider les pauvres. Voilà, alors cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui tombe dans les mains de voleurs qui vont le dépouiller, qui vont le laisser à demi-mort, ce sont tous ces migrants qui arrivent par centaines de milliers sur nos côtes. Alors il faut faire ce que le Samaritain a fait, il faut les accueillir, il faut les nourrir, il faut leur donner tout l'argent des Français pour que ces gens soient accueillis parce que ces pauvres représentent notre Seigneur. Ça, c'est l'interprétation moderniste. Maintenant, passons à l'interprétation catholique. Eh bien, les pères de l'Église considèrent que cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, donc c'est tout simplement Adam, qui passe de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem symbolise notre Seigneur Jésus-Christ, symbolise plus exactement le paradis, et Jéricho symbolise la terre d'ici-bas. Eh bien, cet homme qui passe de Jérusalem à Jéricho, c'est soit Adam qui, par le péché originel, est obligé de quitter le paradis terrestre pour tomber dans le monde moderne, je dirais dans le monde difficile dans lequel il va être obligé de vivre. Et c'est aussi le symbole du pécheur qui était en état de grâce, qui vivait donc avec le paradis en lui, dans son âme, et qui était obligé de passer de Jérusalem à Jéricho, parce que, ayant perdu le bon Dieu, la grâce sanctifiante, la vertu de charité par les péchés mortels, eh bien, il a perdu l'essentiel. Il reste sur le bord du chemin à moitié mort. Et donc, derrière ce magnifique texte de l'évangile de Saint-Luc, il y a évidemment toute la doctrine de l'Église concernant le péché originel. Je pense que la doctrine de l'Église concernant le péché originel, ce point de doctrine est certainement un des points les plus importants à défendre aujourd'hui dans le monde moderne. Je vous l'ai déjà dit souvent en sermon et en conférence, les deux points qui me semblent les plus importants à définir aujourd'hui, à protéger aujourd'hui, à expliquer aujourd'hui, le dogme de l'Église, de la Sainte Église catholique sur le péché originel et le dogme de la Sainte Église catholique sur le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le péché originel est fondamental parce que c'est parce que les gens modernes nient le péché originel que les gens perdent la foi à grande vitesse. Ils ont oublié l'existence du péché originel. Donc il y a deux erreurs à éviter concernant le péché originel. Première erreur, l'erreur de Martin Luther, l'erreur des protestants, qui disent, voilà, le péché originel a existé, effectivement, Adam et Ève sont tombés dans le péché originel, mais ce péché originel a tellement fait de dégâts dans l'âme que l'homme devient incapable, par les puissances de son âme, de suivre notre Seigneur. Donc son âme, l'intelligence de son âme, une des puissances de l'âme la plus importante, l'intelligence est incapable d'atteindre Dieu, d'atteindre le vrai à cause du péché originel. La volonté est incapable d'atteindre le bien à cause du péché originel. L'irascible, cette puissance que nous avons pour lutter contre les tentations, est tellement détruite par le péché originel que nous sommes incapables de lutter contre les tentations et le concupiscible, qui fait que nous sommes attirés par toutes les choses autour de nous. Eh bien, la concupiscence de la chair, des yeux et de l'orgueil est telle que l'homme ne peut plus lutter contre ses tentations. Donc, Dieu nous demande par sa loi divine une chose qui n'est plus possible pour nous de réaliser. La loi du bon Dieu n'est plus possible pour nous. Elle est trop compliquée, trop difficile, trop exigeante à cause du péché originel. Et donc Luther, un moine catholique donc qui a perdu la foi, apostat, en concluait, ben donc, puisque le péché originel a tout détruit en nous, eh bien, nous ne sommes plus que responsables du péché. Et donc ce qu'il faut, c'est croire que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, par sa résurrection il nous a délivrés, et donc pêche fortement, disait-il à ceux qui le suivaient, pêchez fortement et croyez plus fortement encore. Faites n'importe quoi, de toute façon vous n'êtes plus responsable de vos péchés puisque Dieu nous demande quelque chose qui est impossible à réaliser, et donc c'est la foi qui va nous sauver. Et j'ai connu, en Espagne entre autres, je me rappelle un cas très particulier d'un prêtre moderniste que j'ai connu qui disait ça, c'est fidèle. Le bon Dieu vous demande, par la loi des 10 commandements, une loi qui n'est plus possible pour nous dessus. C'était peut-être possible encore au Moyen-Âge, parce que l'ambiance générale est encore catholique, mais plus possible aujourd'hui. Il est évident qu'une telle position est complètement hérétique. Cela voudrait dire que le bon Dieu est injuste. Il nous demande une loi qu'on ne peut pas suivre. Donc ça, c'est la première erreur à éviter, l'erreur du protestantisme. Deuxième erreur, celle qu'on trouve surtout chez les modernistes actuels, c'est une erreur un petit peu différente, mais qui arrive au même résultat. Les modernistes pensent que le baptême efface le péché originel, ce qui est vrai, et remet l'âme baptisée dans l'état de justice originelle qui était celle d'Adam et Ève avant leur péché originel. Et ça, c'est faux. Parce que l'Église catholique enseigne que si le péché, le baptême efface le péché originel, il n'efface pas toutes les conséquences du péché originel, il reste les blessures du péché originel. On va expliquer tout ça. Et donc, les modernistes pensent que l'homme étant revenu dans un état de justice originelle, donc l'homme est de nouveau bon, il n'est plus mauvais par nature, on n'a plus le droit de dire que l'homme est né dans le péché, étant par nature contaminé par le péché, que l'homme est bon et que donc tous ses désirs sont légitimes, qu'il faut donc que l'homme suive tous ses désirs modernes, parce que tous ses désirs internes qu'il a en lui, parce qu'il est bon, le péché originel n'existe plus en lui, et donc tout ce qu'il désire est naturellement vertueux. Eh bien, mes chers frères, il faut au contraire comprendre cet évangile dans le bon sens. Encore une fois, il y a une énorme erreur à éviter, c'est l'erreur de l'orgueil. Donc, le péché originel est celui d'Adam et Ève, un péché actuel pour Adam et Ève, pour nous c'est un péché de nature, mais qui affecte tous les hommes. Tous les hommes naissent avec le péché originel, sauf, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ en son humanité et Notre-Dame, parce qu'elle est Immaculée Conception. Bon. En dehors de ces deux exceptions extraordinaires, tous les hommes naissent avec le péché originel. Donc, tous les hommes naissent avec en eux ce qu'on appelle un foyer de concupiscence, un foyer d'iniquité. Les hommes naissent mauvais. Les hommes naissent avec des mauvaises tendances. Et le baptême est nécessaire justement pour nettoyer cette âme du péché originel par la vertu de charité. Mais il reste pour l'âme, même après le baptême, des mauvaises tendances qu'on appelle des blessures. Alors, pour pouvoir justement conserver la foi et aller au ciel, le premier écueil à éviter, c'est l'orgueil. Donc, soit on suit l'orgueil et on tombe dans le protestantisme ou dans le modernisme, tel que je viens de vous l'expliquer, soit on pratique l'humilité et on conserve la foi. Donc, quelles seront les conséquences de l'orgueil pour l'homme ? L'orgueil, mis dans une âme par le démon, va faire croire à ces âmes, contaminées par le démon de l'orgueil, que les dons donnés par Dieu à Adam et Ève, qu'on appelle les dons préternaturels, sont toujours en notre âme, grâce au baptême. Et donc que les hommes sont impassibles, sont immortels, ont la science infuse et ont l'intégrité. Ça, c'est les conséquences de l'orgueil. Cette façon de voir est en général explicitée par une phrase très fréquente qu'on entend tout le temps dans le monde moderne, jamais souffrir, jamais mourir. Profite de la vie, il n'y en a qu'une. Il faut en profiter avant d'être dans la tombe. Dans la tombe, ce sera trop tard, on ne pourra plus en profiter. Donc, jamais souffrir, jamais mourir. Jamais souffrir, c'est l'impassibilité. Jamais mourir, c'est l'immortalité. Et donc, le monde moderne essaie de faire croire aux hommes qui sont contaminés par ces idées-là, qui peuvent rêver d'une immortalité, qu'ils peuvent rêver d'impassibilité, qu'un jour, avec les progrès de la science et les progrès de la médecine, on arrivera à ne plus souffrir du tout, on arrivera à ne plus mourir, et qu'on pourra changer nos organes malades comme on change une pièce abîmée sur une voiture. L'orgueil va aussi nous faire croire qu'on a la science infuse, qu'on sait tout, qu'on peut tout savoir, que tous les savoirs possibles et imaginables sont nôtres justement par le progrès de la science électronique, par toutes les choses nouvelles qui nous sont données par Internet, qu'on peut tout connaître et tout savoir, qu'on peut devenir vraiment comme des dieux, et que devenant comme des dieux, eh bien, nous aurons évidemment l'intégrité, c'est-à-dire que nous serons parfaitement maîtres de nous-mêmes, maîtres de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous savons. Cet orgueil fait un dégât énorme, pas simplement chez les païens, mais fait un dégât considérable aussi chez nos fidèles. Malheur à ceux qui tombent dans l'orgueil, maintenons-nous dans l'humilité. Le deuxième point utilisé par le démon pour justement pousser l'orgueil dans les âmes, c'est de faire croire aux gens que les quatre mensonges que le démon a utilisés pour rouler dans la farine Adam et Ève, travaillent aussi avec nous pour faire croire que nous aussi il faut suivre les désirs du démon, suivre ce que le démon nous chuchote à l'oreille. Qu'est-ce que le démon nous chuchote à l'oreille à longueur de journée, des quand même pieds dehors? Les quatre mensonges qu'il a utilisés pour rouler, encore une fois, dans la farine Adam et Ève, pour tromper Adam et Ève. Vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, et vous déterminerez par vous-même vous déterminerez par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Vos yeux s'ouvriront. Et donc, attention à ces tendances qui sont aussi à la porte de notre maison. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes catholiques, nous ne serons pas tentés par ces idées-là. Premier mensonge du démon, vos yeux s'ouvriront. Vous allez tout connaître. Vous connaîtrez tout. Donc, il faut étudier par Internet. Il faut connaître tout par Internet. Vous pouvez arriver à tout savoir maintenant, même ce qui ne vous regarde pas. Et donc, le démon cherche à faire croire aux catholiques qu'on peut tout savoir. Il est dangereux de tout savoir. Il y a des choses qui ne nous regardent pas. Il faut connaître les choses qui regardent notre devoir d'État, mais ne pas trop s'intéresser aux choses qui ne regardent pas notre devoir d'État. C'est ce que fait le démon. Vos yeux s'ouvriront, c'est-à-dire vous allez utiliser votre intelligence pour découvrir des tas de choses que l'Église vous a cachées pendant 20 siècles. L'Église n'a jamais rien caché. Mais l'Église essaie d'expliquer qu'il y a des choses importantes qu'il faut étudier et des choses secondaires qu'il faut laisser sur le côté. Vous ne mourrez pas, conséquence. On retrouve le don préternaturel qu'Adam et Ève avaient d'immortalité. Vous ne mourrez pas, c'est-à-dire vous allez devenir vous-même un peu votre propre roi, votre propre chef, et donc vous deviendrez comme des dieux. Troisième mensonge. Vous deviendrez comme des dieux, c'est-à-dire comme Dieu est celui qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal par les 10 commandements, en disant précisément ça vous pouvez faire, ça vous ne pouvez pas faire, comme vous allez devenir littéralement comme Dieu, vous allez devenir divinisé, vous allez diviniser votre âme, et bien par cette divinisation, et bien vous allez pouvoir décider par vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Le catéchisme vous a expliqué ce qu'il fallait faire, ce que vous aviez le droit de faire, et ce que vous aviez le droit de ne pas faire. Vous aviez interdiction de faire, et qu'il fallait donc utiliser la grâce du bon Dieu pour suivre la loi du bon Dieu et ne pas faire les choses qu'il nous a interdites. Et bien, puisque vous êtes devenu Dieu, c'est vous qui allez déterminer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ça, c'est le crime, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le crime du libre examen. C'est-à-dire, libre examen, c'est ça, la liberté de conscience, c'est ça. Tout le monde moderne, toute l'Église de Vatican II est entièrement fondée sur ce faux principe de la liberté de conscience. J'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de penser ce que je veux, j'ai le droit d'utiliser les puissances de mon âme comme je le veux. Non. Nous avons une loi à suivre, et parce que nous avons une mauvaise tendance en nous à cause du péché originel, eh bien il nous faut justement utiliser les sacrements de pénitence et de communion de la Sainte Eucharistie pour lutter contre cette tendance. Donc attention, encore une fois, le péché originel en nous entraîne l'obligation pour nous justement de lutter contre la liberté de conscience. N'oubliez pas l'enseignement de l'Église, du pape Pie IX surtout, la liberté de conscience, une liberté de perdition, une insanité, une liberté de perdition. C'est ce qu'il a dit dans Quanta Cura, hein, en 1864, je crois. Donc, liberté de conscience, c'est ça. Alors, au contraire, pour nous catholiques, il nous faut donc rejeter cet orgueil du monde moderne et pratiquer l'humilité. Comment pratiquer l'humilité dans ce domaine? Eh bien, on va pratiquer l'humilité. Si on pratique l'humilité, on rejettera donc cette fausse idée que nous avons les dons préternaturels, cette fausse idée qu'il faut suivre les avances du démon. Et on va au contraire nous méditer sur un autre point capital, l'existence dans notre âme après le péché originel, même chez les âmes baptisées, des blessures. Chacune des puissances de notre âme est blessée. En nous, l'intelligence est blessée par l'ignorance. Nous ne savons pas les choses, nous oublions tout ce qu'on apprend. Il faut revenir constamment sur les mêmes choses. Et donc, il nous faut utiliser la vertu cardinale de prudence, justement, parce que nous sommes ignorants. Quand on ignore quel chemin nous devons prendre, bien, il faut ralentir. On commence par être prudent, on s'arrête, on réfléchit, on prie pour avoir les conseils du bon Dieu, et par le don de conseil, savoir quel chemin il faut prendre pour aller plus vite au ciel. Et donc, notre intelligence est blessée par l'ignorance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons être obligés de nous mettre au travail. Nous allons être obligés d'étudier l'ignorance, conséquence du péché originel pour l'intelligence, nous oblige à travailler, nous oblige à étudier, nous oblige à revenir constamment sur les mêmes choses parce qu'on oublie tout ce qu'on apprend. Ensuite, la volonté. La volonté dont l'objet formel est le bien, la volonté, elle est blessée par la malice. Nous avons une âme malicieuse. Ça veut dire quoi, la malice? La malice, ça veut dire que nous avons toujours la tendance, malheureusement, en nous, de faire un petit peu comme le serpent, ne pas aller directement au but, mais essayer de trouver des moyens pour rouler un petit peu le bon Dieu. Et le péché de malice, le péché classique de malice, c'est le mensonge. Le mensonge qui mène au vol. Tous les voleurs sont des menteurs, tous. Tous les menteurs ne sont pas des voleurs. Mais l'inverse est vrai, tous les voleurs sont toujours des menteurs. Et donc notre volonté est blessée par la malice. Et il va falloir donc utiliser la vertu de justice, la vertu cardinale de justice, pour lutter contre cette infection de notre âme. Ensuite, l'irascible. L'irascible, c'est le pouvoir que nous avons pour lutter contre les tentations, lutter contre les obstacles que nous avons, qui se présentent à nous dès qu'on suit le bon Dieu. Eh bien, l'irascible est blessé par la faiblesse. Nous avons une faiblesse en nous. Nous sommes faibles, mes bien chers frères, vous et moi, nous sommes faibles pour lutter contre les tentations. Bien que le bon Dieu ait promis que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces, nous avons une faiblesse en nous. Il va falloir pour cela utiliser cette fois-ci la vertu cardinale de force pour lutter contre cette faiblesse. Et enfin, la concupiscence en nous, c'est-à-dire ce désir naturel que nous avons de choses qui sont autour de nous, eh bien, va être détruit par la concupiscence qui va introduire un désir déraisonnable. Nous allons désirer les choses qui sont autour de nous de façon déraisonnable, de façon égoïste et perverse. Que ce soit avec les yeux, que ce soit avec la chair, que ce soit avec l'orgueil. Alors, il va falloir cette fois-ci utiliser la vertu de tempérance pour justement, comme son nom l'indique, tempérer les choses qui sont autour de nous pour n'utiliser que les choses qui sont bonnes pour vous, pour nous. Mais puisqu'il y a trois concupiscences, les yeux, l'orgueil et la chair, il va y avoir à utiliser d'autres vertus, à savoir la pauvreté, esprit de pauvreté, pour lutter contre la tentation de tout avoir, par la concupiscence des yeux, la chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et l'obéissance pour lutter contre l'orgueil. Donc un catholique, c'est quoi? Un catholique, c'est quelqu'un qui est convaincu justement qu'il a besoin, à cause de ses blessures, qui affecte son âme, son intelligence, sa volonté, l'irascible, le concupiscible, qui sont blessés par l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Et donc, il faut que nous utilisions les sacrements, surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, pour augmenter en nous les quatre vertus cardinales de prudence, de force, de justice et de tempérance. Il y a d'autres conséquences dont je n'ai pas le temps trop de parler maintenant, mais qu'il faut méditer aussi. Cela entraîne, à cause justement de ce fait que nous sommes atteints par ces blessures, même après le péché originel, attention, le péché originel est toujours, même après le baptême, pardon, le baptême efface le péché originel, mais pas les blessures. Les blessures sont toujours là, et donc il faut éduquer nos enfants. Éduquer nos enfants pour lutter contre l'ignorance, la malice, la faiblesse et la concupiscence. Et tout le travail d'éducation sera un travail de longue haleine pour apprendre aux enfants, obliger les enfants à travailler, à étudier contre l'ignorance, obliger les enfants à avoir un cœur droit contre la malice, obliger les enfants à lutter contre les obstacles qui se rencontrent dans la pratique du bien à cause de la faiblesse, et éduquer les enfants contre les concupiscences. Malheur aux enfants qui en font qu'à leur tête, malheur aux parents qui considèrent leurs enfants quand les petits comme des petites merveilles irresponsables. Demandons, eh bien, chers frères, demandons à ta Sainte Vierge Marie de bien comprendre ce texte dans ce bon sens. Donc cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam qui vient de se faire tromper par le démon. Alors il est à moitié mort, il n'est pas complètement mort parce que les puissances de son âme sont toujours là, mais il est à moitié mort à cause des blessures qui seront là, des conséquences du péché originel pour lui. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va prendre cet homme, va le placer sur son âme, qui est le symbole de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, et le conduire à l'auberge. À l'hôtellerie, donc il le place sur sa monture et il mène ce blessé à l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'église, et il va donner à l'hôtelier donc de donner charité à l'égard du prochain, charité à l'égard de Dieu, charité à l'égard de soi-même. Nous demandons, mes bien chers frères, demandons à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses, à savoir les expliquer, à aimer les expliquer à nos enfants. En passant par la Très Sainte Vierge Marie, on ne se perd jamais. Serviteur de Marie, jamais ne périra, disait Saint-Louis Marie Grande Montfort. Priez votre chapelet. Priez notre chapelet tous les jours pour que justement nous soyons capables de rester à l'hôtellerie où le bon Dieu nous veut, pour que nous puissions, par le sacrement de pénitence, par le sacrement de la Sainte Eucharistie, lutter contre les blessures du péché originel et pratiquer davantage chaque jour les vertus cardinales qui nous aident à ouvrir davantage les portes de notre âme pour que la foi, l'espérance et la charité puissent régner en maître dans nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.